les philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi ? Religion.
Là, on a retourné le problème
faire
en fait.
À l'extérieur de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, de retourner.
C'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société.
Crise des représentations,
des institutions
et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer,
de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophe public.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les philosophes publics ont choisi de partager avec vous le début d'un texte de Kant, donc auteur allemand du XVIIIe siècle, répondant à la question de savoir ce qu'est les Lumières. La question était donc posée par un mensuel berlinois, et la question ouverte à tous était: qu'est-ce que les Lumières ? Pourquoi ce choix ? Bon, je crois que ici à cette table, nous aimons tous ce texte parce qu'il réfléchit sur ce que sont les Lumières, non pas tant comme un fait historique ou un fait accompli, mais comme un geste, et peut-être même comme un geste proprement philosophique qui renvoie, en toute modestie, peut-être à ce qu'on aimerait reprendre ou nous inscrire dans cette filiation d'ouvrir la philosophie, non pas tant pour la transmettre à d'autres, mais parce que nous pensons que c'est dans l'ouverture même qu'il peut y avoir philosophie ou plus simplement pensée. Et effectivement, Kant va dans ce texte défendre l'idée que la raison se manifeste avant toute chose dans son usage public. Il y aurait donc un usage privé de la raison, qui nous permet de ne pas faire n'importe quoi, de nous protéger quand il fait froid, mais aussi de faire son travail avec d'autres, une raison logique, mais aussi une raison publique, une raison en fait qui est avant tout une activité qui ne peut se produire que si il y a autorisation, possibilité de partager ses pensées dans un monde qui est pensé d'emblée comme commun, et tellement commun chez Kant qu'il est cosmopolite. Ça veut dire qu'il est universel. Voilà, donc aujourd'hui je suis avec Morgane, Marc, Hélène et Ronald pour essayer d'expliquer ce texte un petit peu comme on fait en classe, pas du tout pour vous donner une série de connaissances, mais pour essayer comme ça de tirer ce qu'il y a encore d'actuel dans ce texte. Donc en gros, je vais très vite, c'est une tentative de définir ce que sont les Lumières et de montrer que l'entrée dans ce que Kant appelle les Lumières, on y reviendra, se fait par deux cassures, deux arrachements, une première à l'intérieur de soi. Décider comme ça de passer dans une sphère de la pensée qui n'est pas une décision intellectuelle au sens il s'agit pas d'aller à l'université et de se dire enfin je vais acquérir des connaissances, non, c'est presque un geste intérieur de se dire que si je pense je suis libre et si je suis libre je pense. Donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler la décision, pour Kant c'est un acte de la volonté, la pensée, et donc une activité. Et dans un deuxième temps, Kant interroge aussi l'ordre du monde qui est le sien et qui est donc marqué par un despotisme très fort et par un cléricalisme très fort. Encore une fois, on précisera ces termes. Et là aussi, il s'agit d'introduire une brèche, une ouverture qui va empêcher ou limiter en tout cas toutes ces tentatives de pouvoir trop fortes, trop violentes pour produire ce que Kant appelle une république. Et là aussi, il faudra qu'on en précise le sens. Bon, il nous a semblé important de vous lire ce texte. Donc Hélène et Marc vont nous faire la lecture. Donc c'est le début, tout début de « Qu'est-ce que les Lumières ?»
Je commence la réponse de Kant à la question posée. « Les Lumières sont ce qui fait sortir l'homme de la minorité, qu'il doit s'imputer à lui-même. La minorité consiste dans l'incapacité où il est de se servir de son intelligence sans être dirigé par autrui. Il doit s'imputer à lui-même cette minorité quand elle n'a pas pour cause le manque d'intelligence, mais l'absence de la résolution et du courage nécessaires pour user de son esprit sans être guidé par un autre. Sapere aude et le courage de te servir de ta propre intelligence. Voilà la devise des Lumières.
La paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu'une si grande partie des hommes, après avoir été depuis longtemps affranchis par la nature de toute direction étrangère, restent volontiers mineurs toute leur vie et qu'il est si facile aux autres de s'ériger en tuteurs. Il est si commode d'être mineur. J'ai un livre qui a de l'esprit pour moi, un directeur qui a de la conscience pour moi, un médecin qui juge pour moi du régime qui me convient, etc. Pourquoi me donnerais-je de la peine? Je n'ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront pour moi de cette ennuyeuse occupation. Que la plus grande partie des hommes, et avec eux le beau sexe tout entier, tiennent pour difficile, même pour très dangereux, le passage de la minorité à la majorité, c'est à quoi visent avant tout ces tuteurs qui se sont chargés avec tant de bonté de la haute surveillance de leurs semblables. Après les avoir d'abord abêtis, en les traitant comme des animaux domestiques, et avoir pris toutes leurs précautions pour que ces paisibles créatures ne puissent tenter un seul pas hors de la charrette où ils les tiennent enfermés, ils leur montrent ensuite le danger qui les menace s'ils essaient de marcher seuls. Or, ce danger n'est sans doute pas aussi grand qu'ils veulent bien le dire, car au prix de quelques chutes, on finirait bien par apprendre à marcher. Mais un exemple de ce genre rend timide et dégoûte ordinairement de toute tentative ultérieure.
Il est donc difficile pour chaque individu en particulier de travailler à sortir de la minorité qui lui est presque devenue une seconde nature. Il en est même arrivé à l'aimer, et provisoirement, il est tout à fait incapable de se servir de sa propre intelligence parce qu'on ne lui permet jamais d'en faire l'essai. Les règles et les formules, ces instruments mécaniques de l'usage rationnel, ou plutôt de l'abus de nos facultés naturelles, sont les fers qui nous retiennent dans une éternelle minorité. Qui parviendrait à s'en débarrasser ne franchirait encore que d'un saut mal assuré les fossés les plus étroits, car il n'est pas accoutumé à d'aussi libres mouvements. Aussi n'arrive-t-il qu'à bien peu d'hommes de s'affranchir de leur minorité par le travail de leur propre esprit, pour marcher ensuite d'un pas sûr.
Mais que le public s'éclaire lui-même, c'est ce qui est plutôt possible. Cela même est presque inévitable, pourvu qu'on lui laisse la liberté. Car alors, il se trouvera toujours quelques libres penseurs, même parmi les tuteurs officiels de la foule, qui, après avoir secoué eux-mêmes le joug de la minorité, répandront autour d'eux cet esprit qui fait estimer au poids de la raison la vocation de chaque homme à penser par lui-même et la valeur personnelle qu'il en retire.
Merci pour cette lecture. Peut-être juste poser quelques questions avant de rentrer comme ça dans une attention plus fine au texte lui-même. Donc les questions qui sont posées, c'est au fond comment offre-t-on la possibilité d'être libre? Qu'est-ce qu'être libre? Qu'est-ce que penser par soi-même? Il me semble que c'est une expression qu'on entend souvent, une injonction, mais finalement qu'est-ce que ça veut dire penser par soi-même? Et comment effectivement commencer un ordre historique qui n'est pas que déterminé par ce qui existe, ici les monarchies absolues, pour rendre possible une république. Donc je précise juste que ce texte est écrit en 1784, je l'ai déjà dit, mais c'est-à-dire avant la Révolution française. Ça signifie que Kant ne prévoit pas l'événement. Personne ne peut le prévoir. Et surtout, pour Kant, il n'est pas révolutionnaire. Pour des considérations logiques, on ne peut défendre théoriquement la révolution parce que sinon, finalement, on défend, si vous voulez, un monde qui est tout le temps en recommencement, c'est-à-dire le contraire de ce dans quoi on peut vivre, où il nous faut quelque chose de durable. Par contre, Kant est fondamentalement réformiste. Réformiste, ça veut dire qu'en permanence, le changement est une question qui nous est adressée. Comment produire du changement tout en maintenant que ce changement ne peut être un écroulement de l'édifice. Cela dit, quand la Révolution française aura lieu, Kant dira que c'est l'événement en histoire, il est philosophe et pas historien, et que cet événement fait événement, c'est-à-dire qu'il rend possible un nouvel ordre du monde et du rapport des hommes au droit, à eux-mêmes et à la religion. Donc, juste la première phrase, il me semble que peut-être ça, en tout cas pour moi, ça fait sens, que les Lumières pour Kant sont, en allemand, le terme c'est Aufklärung, donc ça désigne une activité. Dans le texte, qu'est-ce que les Lumières pour Kant ? C'est la sortie de la minorité, c'est la sortie de l'obscurité, c'est la sortie de... Bon, la minorité ici, c'est bien sûr pas la minorité juridique, hein, ça n'a rien à voir avec l'âge, ou ça a à voir avec la minorité, quelque chose où on se défait finalement de sa qualité de sujet pour s'en remettre à un autre. Hein, donc on est mineur du point de vue de l'autonomie, mais en aucun cas on est mineur d'un point de vue juridique. Hein, et aujourd'hui, il y a des gens qui sont sous tutelle juridique parce qu'ils ne peuvent pas. Hein, ils ont besoin de cette protection parce que pour des raisons ou bien d'âge ou bien de maladie, ou bien, ils ne peuvent pas user de leur majorité. Donc ici, ce que veut dire Kant, c'est que s'il y a possibilité et il y a en droit possibilité de sortir de sa minorité, alors cette sortie est permanente. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas un geste qui a lieu et dans lequel on s'installe et voilà, nous sommes majeurs et nous devons vivre cette majorité. C'est quelque chose qui se fait tout le temps. Donc souvent, ce que je pense, c'est que pour Kant, les Lumières sont tout le temps là. C'est tout le temps notre question. Il faut toujours sortir de cette minorité qui n'a pas été accomplie au XVIIIe. Oui, Marc.
Oui, l'effort est d'autant plus permanent que finalement les obstacles aux Lumières sont avant tout des obstacles intérieurs. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce texte, c'est pour ça que je l'étudie assez souvent en classe d'ailleurs, c'est que dans l'ordre des raisons, Kant commence par évoquer les obstacles intérieurs à la liberté, alors que naïvement et spontanément, la plupart des gens ont tendance que ce qui nous empêche d'être libres, ça vient de l'extérieur. Les interdits, les lois, les tabous, que sais-je. Et ici, donc, pour Kant, c'est très intéressant, et c'est pour ça aussi sans doute que l'effort doit être permanent, c'est que les obstacles intérieurs à cette libération intellectuelle, à cette émancipation, ils sont en chacun de nous. C'est universel, et donc nous devons sans cesse nous méfier de notre propre tendance à la paresse, à l'acheter, etc., ce qu'on verra plus tard.
Exactement. Et justement, ici, bon, la traduction, c'est l'imputabilité. Hein. À qui pouvons-nous imputer la minorité ? Donc, je répète, mais celui qui, par principe, peut être libre, mais préfère s'en remettre à d'autres. L'imputabilité n'est pas... Et dans d'autres traductions, c'est responsabilité. Alors, le terme est encore plus clair ici. Ça veut dire ici que finalement, nous sommes capables de produire à l'intérieur de nous une auto-évaluation, si je puis dire, hein, pour trouver un chemin. Alors peut-être que le chemin n'est pas immédiat, peut-être, hein, comme dit Kant plus tard dans le texte, on peut se faire mal, on peut tomber, hein, pour reprendre la métaphore de la marche, mais il est à l'intérieur de soi. Cela dit, il me semble aussi que Kant là répond à autre chose, puisqu'on pourrait avoir un discours, même parfois on l'a sans le porter clairement, à savoir que finalement, la nature humaine est en soi, en elle-même, lâche, paresseuse, qu'elle préfère finalement une sorte de bonheur un peu immédiat, comme des moutons qui... Enfin bon, je veux pas trop aller sur le terrain de l'animal, mais en tout cas, que ce serait inscrit dans une nature, et comme notre nature serait comme ça, il faudrait mettre en place un ordre un peu autoritaire qui viendrait nous chercher pour travailler, mais on pourrait pas faire plus. Donc il y a à la fois une injonction réelle chez Kant de dire, mais aie le courage de ce que tu es, de ton humanité, hein, n'aie pas peur de sortir, mais aussi, il vise ici déjà les tuteurs, ou déjà un ordre politique, en montrant que ce qui leur sert de justification, d'argumentation, hein, à savoir qu'il y aurait peut-être des hommes faits pour commander et beaucoup d'autres pour être commandés, ne tient pas la route. On peut aussi penser que Kant a bien conscience, hein, de la Prusse à ce moment-là, même si Frédéric II limite un peu son pouvoir, mais plus par calcul politique, on peut penser là qu'il déjoue une forme de censure en se disant « je vais commencer par culpabiliser au sens de faire porter la culpabilité du refus de la pensée au peuple lui-même », mais en fait en disant ça, il déjoue, si vous voulez, la méfiance du contrôle des tuteurs, puisque les tuteurs vont se dire « oui, bon, il a bien raison, encore ce peuple qui est lâche, paresseux, etc. » Donc on peut publier ce texte. Il n'en demeure pas moins, hein, que chez Kant, tous ces niveaux de discours sont vrais. Ronald, oui.
Bon, c'est exactement ce que tu es en train de dire. J'allais te demander si tu considérais que cette image de l'homme comme étant en puissance capable de, d'accéder à la majorité, si on lui en donne les, la possibilité, finalement, n'était pas déjà une forme de réponse assez typique de la part de Kant, en tant que philosophe du XVIIIe et des Lumières, à la question qu'on lui pose.
Oui, ben, tout à fait. C'est, alors, j'aimerais dire que c'est une des réponses de Kant. Hein, c'est pas, évidemment, il a bien conscience que ça, ça ne suffirait pas. Et il me semble aussi qu'il va essayer de creuser, bon, pas seulement dans ce texte, bien évidemment, hein, dans toute son œuvre, de qu'est-ce que c'est que rentrer dans la pensée. Et ici, il va rompre peut-être avec une idée commune, je crois, hein, à savoir que la pensée, ce serait une accumulation de connaissances ou de sciences, bien sûr, hein, que la pensée se nourrit de tous ces progrès de la science, de ces progrès du droit, mais ça, elle ne se substitue pas, hein, ces connaissances ne se substituent pas à la pensée qui, chez Kant, est toujours un acte qui va inclure, si vous voulez, des choses là aussi qui peut-être immédiatement on les met pas d'emblée dans ce sens-là, à savoir les autres, à savoir un espace commun, un espace public. Bon, c'est la suite du texte, donc peut-être qu'on va suivre encore un tout petit peu, mais il va élargir, je crois, le terme de pensée, pas tout seul, hein. D'ailleurs il reconnaît tout à fait qu'il s'inscrit dans une tradition, puisque quand il cite le latin sapere aude, c'est donc ça nous vient du poète latin Horace, donc c'est aussi quelque chose qui précède Kant, et il s'inscrit bien sûr dans cette lignée émancipatrice, en tout cas on espère, hein. Oui, Ronald.
Mais c'est juste pour dire que il y avait quand même un choix possible de partir d'une conception de l'homme beaucoup plus finalement fermée, ou en tout cas qui pouvait correspondre à ce qu'on pourrait appeler une anthropologie dans laquelle les individus ne sont pas capables par eux-mêmes de s'émanciper, ne portent pas cette puissance de libération. Ici, peut-être que le texte va montrer que l'acte, le passage à l'acte de cette puissance dépend de l'aménagement des conditions réelles politiques de cette émancipation.
Merci Ronald, comme ça je passe au deuxième paragraphe. Mais effectivement, à partir du moment où il déjoue l'idée d'une nature humaine qui serait en elle-même paresseuse ou incapable de produire de la pensée, il va porter l'attention sur comment faire pour que justement, hein, cette vocation intérieure, ce par quoi il y a humanité en chacun de nous, peut s'actualiser. Hein, et donc là, on passe au deuxième paragraphe. Et quand il dit effectivement que la paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu'une si grande partie des hommes restent volontiers mineurs toute leur vie, à partir du moment où on nomme ces causes, ça veut bien dire qu'elles ne sont pas absolues. Hein, on n'est pas dans un principe humain, on est dans des causes, bon, qui se sont installées, sans doute, peut-être durablement, et la question est de savoir d'où elles proviennent. Alors là, quand même, je vais juste suivre un tout petit peu l'ordre du texte, puisqu'il y a deux moments. Premier moment, il y a quand même, chez Kant, un penchant à la paresse, hein, qui est moins fort qu'un désir de penser chez Kant. Mais on est toujours tiraillé entre les deux. Hein, on peut d'ailleurs rentrer dans la pensée, c'est pas abolir de façon définitive le penchant à la paresse. On peut rentrer dans la pensée et puis par certains et être attrapé par un penchant au bonheur immédiat. Hein. Bon, enfin ça c'est la première partie. Donc on va vite réfléchir sur ces causes à travers l'exemple très très simple, hein, du livre du médecin et du directeur de conscience. Mais ensuite, ce serait bien qu'on y arrive vraiment aujourd'hui. Effectivement. C'est une remise en question, et cette fois-ci, à mon avis, virulente, hein, de la part de Kant, contre ce qu'il appelle les tuteurs. Donc, je reviens très rapidement sur cette pente. Hein. À travers l'exemple où il dit, j'aime bien aussi qu'il emploie le « je », puisqu'en employant le « je », Kant se nomme aussi, hein, enfin, se nomme en tant qu'homme, si vous voulez. Donc, j'ai un livre qui a de l'esprit pour moi, un directeur qui a de la conscience pour moi, un médecin qui juge pour moi du régime qui me convient, etc. Donc on n'est pas dans une liste exhaustive. Pourquoi me donnerais-je de la peine? Je n'ai pas besoin de penser pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront pour moi de cette ennuyeuse occupation. Donc sur l'exemple, on peut penser que le livre renvoie à la dimension théorique de chaque humain. Hein. Nous avons besoin de théories, de connaissances extérieures. Et pour Kant, la théorie, au sens noble et fort du terme, c'est d'abord quelque chose que je produis en moi. Ça ne veut pas dire, justement, en la produisant en moi, ce qui va faire qu'elle accède au statut de théorie, c'est-à-dire de scientificité, c'est que j'en ai compris le raisonnement, la démarche et la méthode, et que je peux la partager avec d'autres qui vont dire, ah ben oui, si, c'est presque le raisonnement hypothético-déductif, je donne un exemple très très simple, si A égale B et B égale C, alors A égale C, c'est quelque chose que je produis à l'intérieur de moi et qui est validant, par le partage de cette pensée. Bon, c'est un exemple très simple, mais bon, qui a le mérite d'être immédiatement compréhensible. Donc, on peut aussi, finalement, recevoir que des conclusions. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil, etc. Mais au fond, je prends même d'autres champs. La peine de mort, il faut l'abolir. Oui, on le tient pour acquis, mais... Penser, c'est aussi se dire pourquoi je tiens ça pour acquis. C'est-à-dire jamais lâcher avec l'idée que nous devons partager le chemin par lequel, ou par lesquels, il y a parfois plusieurs chemins, nous arrivons à des conclusions qui nous paraissent absolument certaines, mais cette absoluité n'est pas absolue au sens où elle est relative à une argumentation de la raison. Oui.
D'ailleurs, je vais peut-être juste un petit peu anticiper sur ce que tu vas dire ensuite, ou peut-être dans la prochaine émission, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une hétérogénéité des trois exemples, justement, sur laquelle il passe assez vite, mais j'imagine que tu allais en parler. C'est vrai que c'est pas la question qui se pose, c'est entre le livre qui, comme tu dis, nous sert d'entendement, enfin de prothèse, qui nous permet de penser à notre place et de nous livrer des conclusions toutes faites sans que nous ayons besoin de les reconstruire. Le directeur de conscience, et là on est plutôt dans le champ de la morale, de l'éthique et du choix, qui devrait être autonome justement. Et puis le médecin, où là on peut imaginer que dans des domaines très spécialisés comme la médecine ou autre, on peut être hétéronome, on peut accepter de déléguer notre jugement. C'est vrai que ça, c'est assez intéressant les trois exemples, mais je te coupe sans doute un peu l'herbe sous le pied.
Alors effectivement, pour le directeur de conscience, je crois qu'on comprend tous très bien, ça renvoie surtout en fait à la religion et à la place de la religion au XVIIIe siècle, pas à toutes les formes de religiosité, mais au cléricalisme, voilà. Donc je passe vite. Le médecin est plus surprenant parce que nous, et d'autres, surtout nous au XXIe siècle, on a tendance à se dire mais je ne suis absolument pas médecin, donc je remets mon corps d'une certaine façon, alors quel corps, ça aussi c'est une question, mais au médecin. Alors, il me semble quand même qu'au XVIIIe siècle, la médecine ne soit pas aussi solide qu'aujourd'hui et que parfois, on trouve au XVIIe siècle, chez Molière, le médecin qui en fait ne vient que confirmer des choses assez simples de la nature. Si on a mal au ventre en mangeant trop, pas la peine non plus de dépenser. On peut par soi-même accéder à une raisonnabilité par rapport à son corps, au prendre soin. Mais je crois que c'est pas seulement un argument historique qui ne serait plus valable aujourd'hui. Moi, j'ai pensé là, peut-être, j'ai un petit peu éloigné, mais c'est pas grave, que par rapport à la nature, notre considération de la nature, donc c'est pas la nature en nous, ici, c'est pas le corps, mais la nature à l'extérieur de nous, que finalement, on pouvait l'utiliser, au point, effectivement, qu'on puisse croire, en tout cas, au XVIIe, XVIIIe, voire XIXe, qu'elle pourrait nourrir le monde entier, quitte, pour ça, à la détériorer, à lui donner, je sais pas, des pesticides, etc. Et peut-être que nous avons la naïveté de croire que nous sommes capables de produire le remède du mal que nous créons. Et que de toute façon, le médecin ou le biologiste arrivera pour réparer ce que nous détruisons, enfin, pas complètement, mais en tout cas, ce que nous mettons à mal. Or, ce que dit peut-être Kant ici, c'est que, y compris pour mon propre corps, je ne peux pas, si vous voulez, compter que sur un autre, ici un médecin, qui va se placer en meilleur savant que moi de mon propre corps, en me disant de toute façon, l'humanité est toujours capable de produire du remède. Non. Et ça renvoie peut-être chez Kant aussi à ce qu'il reconnaît, contrairement, je crois, à Descartes, c'est notre finitude. C'est que nous ne sommes pas que dans du linéaire. On ne va pas aller, rien n'est acquis. Les Lumières, il y a ici, au moment du XVIIIe, une ouverture vers la République, vers l'autonomie, vers la citoyenneté. Être citoyen, c'est tout ça, mais c'est jamais acquis. Y compris, finalement, nos façons de... Même si la médecine progresse, nous ne serons jamais qu'un corps objectivé, que nous pourrons poser sur la table d'un médecin et qui pourra réparer comme on répare une horloge. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à consulter, voire ici hein, des livres, bien entendu, des directeurs de conscience. Bon, ça, Kant, il le dirait autrement, mais des gens qui sont dans un rapport authentique à la foi, au questionnement. Oui, qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce que, hein, ou au médecin. Mais c'est toujours un examen. En fait, chez Kant, toute pensée est toujours une pensée qu'on ramène à soi, et c'est donc, hein, il y a quelque chose de l'ordre de la conversion et de la compréhension et de la consultation. Nous nous consultons les uns les autres pour avancer. Ronald.
Oui, oui, pour aller dans ton sens, et pour prolonger ce que disait Marc, c'est vrai que ces exemples sont étonnants, dans la mesure où on pourrait croire que Kant nous incite à refaire le chemin qui a été déjà parcouru par des hommes qui ont finalement établi des choses qui pourraient nous dispenser de cette activité de recherche qu'il qualifie ensuite de fastidieuse, par ailleurs, hein, dans la suite du texte. Par exemple, je ne vais pas réécrire tous les livres, réinventer toute la médecine. Et l'exemple de la conscience est un petit peu à part, parce que quand même, je ne vois pas comment il peut y avoir des résultats définitifs pour conduire ma conscience, alors que je suis le seul capable de prendre cette initiative. Mais ici, à mon avis, ce qui fait sens, comme tu l'as dit, hein, c'est que Kant nous propose de nous mettre en position active par rapport à ces savoirs, et non pas de stimuler cette passivité qui consiste à les accepter comme du prêt-à-penser. Et finalement, c'est cette idée que, malgré la nécessité d'être informé, cultivé, de reprendre des vérités qui ont été établies, si on ne les fait pas siennes, l'attitude intellectuelle que nous développons à l'égard de ces vérités est mauvaise, hein, pour ce qu'il veut solliciter ici.
Marc ?
Et tout à fait. Et en même temps, ce besoin de vérifier par soi-même, de reconstruire les raisonnements, de remonter au fondement. Hein, tu l'exemple que tu prenais tout à l'heure, par exemple, de la peine de mort. Je suis contre la peine de mort, mais je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que ça n'a pas grande valeur. Ces exemples-là sont intéressants parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas tout reconstruire. Hein, là, tu parlais de finitude. La finitude, c'est aussi la finitude de l'esprit humain. Et là, je crois qu'il y a un vrai enjeu aussi de citoyenneté. Peut-être par rapport à l'actualité dont on parlait du texte, c'est justement la question que peuvent nous poser cette accumulation d'exemples, c'est en tant que citoyen aussi, quelles sont les connaissances qui sont les plus urgentes à vérifier, à reconstruire, à déconstruire ? Finalement, quels sont les domaines où je peux accepter d'être passif et hétéronome ? Parce que, comme tu le dis, Ronald, on ne pourra pas tout réécrire, tout recomprendre, tout redémontrer tous les principes des mathématiques, de la physique, de la sociologie et autres. Donc je suis bien obligé d'accepter que d'autres pensent pour moi à ma place dans certains domaines, mon médecin en l'occurrence, globalement. Et à l'inverse, et là, ça, justement, par rapport à la responsabilité intellectuelle qu'évoque Kant, la responsabilité intellectuelle de chacun d'entre nous, c'est aussi te dire, en tant que citoyen, quels sont, à l'inverse, les savoirs que je dois, de manière prioritaire, me réapproprier pour ne pas tomber dans une passivité qui serait dangereuse pour moi et pour la société.
Moi, j'y vois un très fort écho avec la question des experts, hein, à qui on doit faire confiance aujourd'hui, en tant qu'il se déclare expert, mais que finalement, le citoyen peut remettre en cause parce que la question qui est traitée le concerne autant qu'eux, et même prioritairement.
Oui, je crois que par rapport à la société des experts, là, comme on dit, on trouve ici l'idée d'un intermédiaire entre ignorance et savoir. Au fond, oui, bien sûr que nous sommes obligés, hein, de nous spécialiser, puisque nous sommes finis, on ne peut pas tout aborder de toute évidence. Hein. Mais en même temps, l'expert, c'est celui que je vais consulter et que je peux aussi, moi, enrichir d'une certaine façon. Hein, il y a vraiment l'idée, et Kant écrit contre l'absolutisme, contre toutes les formes de l'absolutisme, et d'abord contre l'absolutisme de la raison elle-même, puisqu'elle est. Hein, elle aimerait être absolue, avoir réponse à tout. Ce serait confortable et rassurant. Donc c'est un penchant, hein, qui est en nous tous. Et ce texte fait l'éloge de l'inconfort, je vais devoir conclure. C'est-à-dire que admettre la limite, hein, c'est-à-dire refuser ce que Kant appelle une charrette dans laquelle on me mettrait et qu'on pousserait. Donc si on pousse la charrette, en fait, c'est pas moi qui bouge, c'est quelqu'un qui me pousse, mais j'ai bien l'illusion de bouger, donc je bouge, je suis confortablement assis. Au fond, hein, ça risque de nous priver de pensée. Je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Je vais laisser, enfin, je vous demande si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Peut-être que quand même la fin du texte est importante. On fera une deuxième émission, hein, puisque on l'avait bien vu. On a, si vous voulez, montré un petit peu ici les causes internes de chaque homme à se laisser aller à cette paresse, qui ne sont pas absolues. Hein. Et dans un deuxième temps, on s'interrogera davantage sur qu'est-ce qu'un tuteur et quelle est la place des tuteurs par rapport à la minorité. À bientôt alors, sur Radio Grenouille.
Les philosophes publics.
Là c'est, on a retourné le problème en fait, en effet. Là,
c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
C'est quoi ce faut-il là? Est-ce que...
C'est circuler une parole,
c'est ça.
C'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose au mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Ce collectif a décidé d'aller partout
où le dialogue est possible. D'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer.
De discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophes Publics.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook
et sur le site de Radio Grenouille.